Bonjour Pierre Chevalet.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'ICEO, l'Institut de coopération avec l'Europe orientale, basé à Montpellier. Quels sont les objectifs de cet institut, Pierre Chevalet ?
Eh bien, comme son nom l'indique, c'est le but de l'institut, c'est de promouvoir la coopération internationale dans une sphère géographique bien déterminée, c'est-à-dire les anciens pays du bloc soviétique, c'est-à-dire les pays, politiquement on dit les pays de l'Europe orientale, dans le sens pays de l'Est.
Mais une coopération sous quelle forme ? Comment ça se concrétise ?
L'association, quand elle a été créée, espérait coopérer dans tout un tas de domaines, dans tous les domaines possibles et imaginables, parce qu'il y avait tout à faire, mais pour bien voir que le noyau central de la coopération, au démarrage, c'était surtout une coopération universitaire que nous espérions étendre à l'économie, mais surtout, ce qui était le plus développé, c'est tous les problèmes culturels. En particulier, vous le verrez, puisqu'on est dans une région très viticole, on est dans la région la plus viticole du monde, tout naturellement, nous avons beaucoup développé la coopération dans le domaine de la culture du vin.
La culture du vin, l'agronomie ?
L'agronomie aussi, puisque Montpellier dicte un peu les axes de coopération, puisque Montpellier, c'est un des plus grands pôles de recherche en agronomie. C'est un des plus grands pôles de recherche en viticulture, c'est un grand pôle de recherche en médecine, donc tous ces domaines ont enfin forcément induit les lignes de force de nos coopérations.
Donc 27 ans d'existence pour l'ICEO, quelles ont été les lignes de force que vous évoquiez justement à l'instant pendant ces 27 années ?
Événements marquants. Les événements marquants, c'est depuis la naissance, puisque je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler la façon dont ICEO a été créé, parce que c'est ce baptême qui lui donne tout son sens. Donc ICEO a été créé à l'initiative d'un certain nombre de gens qui avaient une grande expérience des pays de l'Est. Et il faut savoir qu'à l'époque, les gens qui avaient cette expérience étaient très très rares. Ils étaient même un peu méprisés, puisqu'on considérait que faire de la coopération, au point de vue scientifique, avec les pays de l'Est, c'était perdre son temps, puisque les grands cerveaux regardaient plutôt à l'Ouest, puisque la grande recherche se faisait aux États-Unis, etc. Et tous ceux qui avaient eu l'occasion de travailler avec les pays de l'Est étaient conscients qu'il y avait de grands cerveaux à l'Est et qu'il manquait les moyens matériels pour que la recherche russe ou la recherche des pays orientaux, d'Europe orientale, se développe. Et que, tant que nous disions à l'époque, c'était les pays de l'Est étaient un peu comme une voiture sans carburant, et que dès qu'on mettrait du carburant dedans, elle roulerait très bien. Je crois qu'ils en ont tout fait. Ils en ont fait la démonstration, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, enfin pratiquement tous les pays de l'Est, dès qu'ils ont pu débloquer les moyens matériels pour travailler, ils ont fait d'excellentes choses.
Mais il est vrai que 27 ans après, l'Europe, sa configuration a beaucoup changé. Est-ce que vous avez réorienté vous-même vos travaux, votre échange, votre coopération ?
Alors, les statuts que je vous invite à lire sont tout à fait explicites de ce côté-là. Quand on a créé l'association ICEO, on était parfaitement conscient que des gens capables de comprendre ce qui s'était passé à l'Est, ce qu'il y avait dans le cerveau de ces gens-là après, pour certains, 70 ans de communistes, poserait forcément des problèmes. C'est-à-dire que les gens ont une spécificité, leur culture, leur histoire, etc. Et donc, notre idée, c'était de dire, ils veulent visiblement rentrer dans l'économie de marché, ils veulent rentrer dans le système international tel que nous le connaissons en Europe occidentale, mais il y aura forcément des problèmes, puisqu'il faut... Et ce que nous avions compris, c'est qu'il y aurait autant de difficultés à l'ouest qu'à l'est de comprendre le problème. Vous savez que quelques années, ça fait plus de 25 ans que la chute du mur de Berlin. Or, en Allemagne, on voit toujours une grande différence de structure mentale des hosties et des westies, c'est-à-dire que les Allemands de l'ouest et les Allemands de l'est ont toujours un mode de pensée différent. Or l'Allemagne a une langue unique, ils ont une culture historique unique, donc vous imaginez que si pour l'Allemagne ça pose encore problème, cette fracture qu'il y a eu, pour tous les autres pays, c'est encore plus fort. Et c'est pour ça qu'on a mis en exergue de notre association la formule « apprendre à se connaître pour savoir se comprendre » ou « pour pouvoir se comprendre », mais nous avions mis « savoir ». Et parce que ça nous paraît fondamental, c'est-à-dire que on ne peut se permettre de fonctionner avec les gens que si on essaie de se mettre un peu à leur place, essayer de penser un peu comme eux. C'est tout le drame des politiques que l'on vit actuellement. On a beaucoup de gens qui ont des principes, ils affichent des principes moraux, mais ils affichent pas le principe de lucidité et de réalité. Et on voit les catastrophes que ça pose. Mmh. Je ne peux pas ne pas évoquer le problème d'Alep, où j'ai appris hier, à mon grand étonnement, à mon grand effroi, que l'ambassadeur de France à Damas en 2011 envoyait note sur note au Quai d'Orsay pour dire qu'attention, Bachar ne serait pas renversé en 8 jours. Il a été pratiquement répudié, on lui a dit tu commences à nous emmerder avec tes notes catastrophiques, Bachar dans 3 semaines il n'est plus là. 5 ans après, Bachar est toujours là. Donc l'intérêt des gens qui connaissent un peu et qui ont une pensée un peu décalée.
Sur votre site, parmi les articles les plus récents, il y a une brève sur Roumen Radev, un candidat pro-russe qui a remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle en Bulgarie, un dimanche du mois de novembre. Alors, lorsque vous donnez ces informations, il y a beaucoup d'informations d'ailleurs sur votre site, quelle est votre intention ? Informer ou est-ce que vous voulez aller plus loin ?
Oui, s'informer et surtout apporter une information un peu originale, parce que regardez, pour revenir, ça va croire que je fais dans l'obsession, mais pour revenir sur la Syrie, si vous prenez la masse des informations qui sont données, elles sont toutes redondantes, elles vont toutes dans le même sens. Donc c'est pas une information, puisque les gens répètent et copient des agences, les notes de l'AFP, et vous regardez, si vous avez l'occasion de regarder sur Internet en temps réel ce qui tombe, que ce soit Ouest-France, que ce soit Dernière Nouvelle d'Alsace, etc., vous avez au mot près les mêmes communications. Donc il n'y a personne qui pense là. Tout le monde fait du copier-coller. Donc,
c'est de l'information.
Nous, on essaie de donner des informations complémentaires. Vous pouvez regarder sur le site que dans la première colonne à droite, on a mis 2 points de vue tout à fait opposés pour que les gens puissent se faire une idée. On a un défenseur farouche de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, ou qu'elle ne fonctionne pas, Giuliani, donc on invite les gens à regarder. Et puis vous avez Sapir, qui est bien connu pour son euroscepticisme, et donc en temps réel, les gens peuvent s'inviter à cliquer dessus, et de suite ils peuvent comparer 2 points de vue. Et c'est comme ça qu'on construit une pensée, si vous pensez tout ça. Comme disait, je crois que c'est François Bayrou qui avait dit ça, pour une fois je pense qu'il avait vu juste, c'est quand on pense tous la même chose, on pense plus.
Vous évoquiez tout à l'heure la question du vin, de la viticulture, due à cette présence de cette agriculture dans la région de Montpellier. Vous évoquez encore sur votre site les journaux œnologiques de Zakopane. Alors, donc c'est aussi l'occasion de voyage dans cette association, d'échanges. Vous recevez des gens de tout pays, vous vous rendez aussi à des journées de partage.
Ah ben ça, le cœur de ce qui fait la richesse du noyau dur des adhérents d'ICO, c'est que ce sont des gens qui sont curieux de l'autre, mais qui sont lucides. C'est-à-dire que ce qui fait, moi j'ai eu l'honneur et la chance de faire toute ma carrière universitaire aux côtés du professeur Castel, et qui était considéré comme un grand humaniste. Mais il avait cette qualité, c'est qu'il avait une grande lucidité dans la coopération internationale. Il a fait faire des thèses à des dizaines d'étudiants du monde entier. Et à chaque fois, il me disait, mon honneur, c'est que pratiquement tous les étudiants étrangers que j'ai formés, que j'ai accompagnés, ils sont tous rentrés chez eux. Il disait, la coopération internationale, c'est pas du débauchage de cerveau, c'est la complémentarité. Et donc, quelques temps avant sa mort, on a eu l'occasion de préparer la succession du professeur Doumbia à Bamako, au Mali. Et dans cette logique-là, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et notre coopération est très humainement, à mon avis, très riche, parce que les gens qui coopèrent sont très fiers de ce qu'ils sont et sont très respectueux de la culture de l'autre. À partir du moment où vous respectez la culture de l'autre et que vous n'arrêtez pas de dire que votre culture n'est une mauvaise culture, tout va très bien, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas en se flagellant toute la journée qu'on se fait aimer des autres, on se fait mépriser. Et ça c'est très très mauvais dans les relations humaines, quand ça commence par le mépris, c'est un mauvais point. Il faut mieux faire des envieux que de faire des méprisants.
Y a-t-il des pays avec lesquels vous avez entretenu une relation plus soutenue qu'avec d'autres ?
Personnellement, pour moi, c'est indéniablement la Pologne, puisque je connais la Pologne depuis 1968. Le président Castel, lui, il avait croisé la Pologne en 1961. Et il y a un des membres fondateurs qui s'appelait, malheureusement il est mort, Alain Pulliquen, qui connaissait la Pologne depuis pratiquement cette date-là, et qui connaissait pratiquement tous les pays de l'Europe centrale et orientale. Donc, mais le pays, le noyau dur, c'est vraiment la Pologne. D'ailleurs, pour ce qui est de la Pologne, c'est notre grande réussite au niveau d'ICO, c'est notre grande réussite au niveau universitaire, puisque j'ai fait ça avec deux casquettes. Et donc... la Pologne, on a fait le bilan la semaine dernière, puisqu'il y a une délégation polonaise de Cracovie qui est venue. D'échanges entre l'université de Cracovie et celle de Montpellier, on dépasse les 170 personnes et plus de 23 thèses et d'échanges longue durée. Et dans l'autre sens, de Français qui sont allés en Pologne, c'est à peu près pareil. Et surtout, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a réussi à construire des liens très très forts, de grande continuité, et ma grande joie et mon grand honneur, c'est de voir que deux jeunes professeurs qui ont la quarantaine d'années sont en train de reproduire les liens d'amitié que moi j'avais créé avec le fondateur d'ICO du côté polonais. Et donc à partir du moment où vous avez des gens qui ont plaisir à coopérer, ça, c'est une histoire d'amour qui ne peut que durer, quoi.
Je vous propose une pause musicale, Pierre Chevalet, non pas une pause musicale polonaise, mais avec la fanfare macédonienne Kosani Orchestar, aux côtés des Roumains, du Taraf des Hajduk, l'orchestre des bandits d'honneur. sur FM Plus 91 FM à Montpellier, toujours avec Pierre Chevalet. Nous sommes en train de discuter de l'association ICEO, l'Institut de coopération avec l'Europe orientale. Nous venons d'écouter une fanfare macédonienne, mais en off, vous nous disiez que la fanfare, c'est un type de musique qui vous plaît bien.
Ah bah oui, quand on est... quand on est balkanique, parce que quand je suis dans les Balkans, les amis me disent tous « Toi, tu es balkanique », comme si je vivais une deuxième vie, quoi. Effectivement, c'est un espace où je me sens très très bien. J'aime la musique, j'aime les relations, j'aime la culture, j'aime la nourriture. Je veux dire que en Europe centrale et orientale, j'ai jamais demandé à manger autre chose que la culture du coin. Mmh. Donc,
vous êtes chez vous en Europe orientale.
Oui, mais même au-delà, je veux dire que j'ai eu l'honneur et la chance de travailler beaucoup avec la Turquie. J'ai pu aller en Syrie, je suis allé au Liban, et donc dans tous ces pays-là, j'ai eu un très très bon contact. Donc je dois être un orientaliste et un balkanique.
Vous vous êtes découvert aussi comme cela. Mmh. Peut-être même avant l'association, c'était déjà
bien,
en vous.
Bien sûr, on est marqué par son histoire. J'ai eu la grande chance de faire un voyage initiatique en 1965. J'étais étudiant à Caen et mes amis m'ont dit « Pierre, on part, on prend une deux chevaux » parce qu'il y avait un des amis qui récupérait une voiture « et on va en Grèce, on fait le grand voyage ». À l'époque, c'était la grande mode, les gens partaient de Paris. Certains allaient jusqu'à New Delhi, nous on s'est arrêtés à Istanbul. Mais on est allé à Istanbul en passant par la Yougoslavie de l'époque, en passant par la Grèce, en passant au retour par la Bulgarie, par la Hongrie, parce que c'est moi qui avais imposé le passage vers Budapest. Et donc, quand à 20 ans, vous voyez ça, ça vous marque. Et surtout, déjà, j'ai senti que j'étais en empathie avec toutes ces populations. Et donc, je n'ai eu qu'une envie, c'est d'y retourner. Et c'est... Après ça, j'ai emmené énormément de gens. C'est-à-dire qu'en 89, quand on a créé l'association, il y avait déjà un certain nombre sur les 12 membres fondateurs, il y en avait 4 ou 5 qui étaient déjà des passionnés de ces espaces géographiques, qui commençaient à bien connaître, etc.
Avez-vous acquis des langues de ces pays ?
Ben, les langues, c'est très difficile, parce qu'au démarrage, jamais je pensais que j'y retournerais si souvent. Donc, comme c'était des langues qui étaient peu pratiquées, on n'avait pas l'occasion... De s'initier, et puis le temps passant, c'est maintenant presque que je serai le plus motivé pour améliorer mon pauvre polonais, mais je connais un polonais de survie, donc j'arrive à survivre en Pologne.
Alors, nous sommes à la fin de cette année 2016, bientôt évidemment 2017. Quels sont les projets de l'ICEO pour 2017 et pour les années à venir ? Il y a quand même, on a l'impression qu'une page se tourne, la configuration européenne est complexe aujourd'hui. Rien à voir avec, vous l'avez dit, il y a 27 ans déjà.
Alors ça, oui. Là, vous me tendez une perche parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on a essayé de répondre aux motifs... au motif des statuts, dans l'urgence, mais on arrive à un tournant, c'est-à-dire que les fondateurs d'ICEO ont cette expérience qu'ils voudraient pouvoir transmettre, et c'est pour ça que, comme j'en ai discuté avec vous, nous espérons que cette émission que vous souhaitez voir mensuelle puisse être l'occasion de sensibiliser un certain nombre de gens et d'essayer de les contacter, des gens qui, parce que c'est pas possible qu'on soit les seuls à avoir cette expérience, je suis sûr que parmi vos auditeurs, il y a des gens qui ont eu une expérience, ou récente, ou très ancienne, de tous ces pays, et ça serait vraiment dommage qu'on puisse pas prendre langue avec eux pour essayer de compléter ça. Et d'autre part, vu la situation, il nous paraît important d'essayer de trouver des jeunes motivés qui puissent essayer de récupérer l'héritage de ce qu'on a fait, bénéficier de notre expérience si elle peut être utile, parce que, revenons encore toujours à cette formule, si on ne connaît pas les histoires longues de ces pays-là, on ne peut rien faire. Quand je vois les jugements qu'on porte sur la Hongrie, qu'on porte sur la Pologne,
la Turquie,
qu'on passe sur la Turquie, etc., tout, et la Yougoslavie, tous ces drames étaient prévisibles pour ceux qui n'avaient pas le nez sur l'histoire. Quand vous prenez l'exemple de la Turquie, je peux donner une anecdote. J'ai eu la chance d'être invité par le groupe de réflexion du président Gorbatchev à Budapest en 2007. Et donc, en 2007, il y avait en face de moi quelqu'un que très connu, Pascal Boniface. Et au moment du débat, s'est posé le problème de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et Pascal Boniface, comme beaucoup de gens dans cette salle à ce moment-là, était un fervent défenseur de l'entrée rapide de la Turquie dans l'Union européenne. Et bizarrement, il y a deux personnes qui ont pris la parole pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord du tout. C'était d'une part Mohamed Charfi, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Tunisie, qui disait que lui, il était beaucoup plus prudent parce qu'il connaissait bien la Turquie et il connaissait bien la culture musulmane. Et puis moi-même, qui avait quand même, à l'époque, j'avais déjà 45 ans d'expérience de la Turquie, puisque depuis, j'y suis allé la première fois en 1965 et j'ai eu la chance de faire une coopération qui dure toujours avec l'université d'Eskişehir. J'ai eu la chance de discuter longuement avec le recteur d'Eskişehir, des soirées entières, et donc j'ai pu mesurer que entre la vision idyllique que nous avions en France de la Turquie démocrate, etc., et la vision réelle de la société turque profonde qu'Erdogan a réveillée. Parce que Erdogan, c'est pas un dictateur, simplement, il a fait réémerger une culture qui était enterrée. Quand vous êtes en Turquie et que vous attendez un bac pour traverser le Bosphore, et que dans un restaurant, dans un café-restaurant, bar, vous avez une carte qui prend tout le mur du fond, et cette carte, elle va de l'Europe jusqu'à l'Indus. Et c'est le sud de la Méditerranée avec l'Algérie, etc. Vous avez en gros l'extension maximum de l'Empire ottoman. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Et donc, je demande au patron, qui parlait très bien anglais, et je lui dis, mais ça veut dire quoi cette carte? Ben, il dit, tout ça, c'est à nous. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, tout ça, c'est à nous, vous pouvez imaginer qu'à un moment, ça va ressortir. Donc, quand on ne connaît pas les gens, on peut leur prêter de bonnes intentions. Quand on connaît les gens, et on peut connaître leurs défauts.
Connaître
et leurs faiblesses.
Voilà. Connaître les gens, connaître l'histoire, c'est important pour comprendre l'aujourd'hui de l'Europe.
C'est une évidence, ça. Je veux dire que les gens s'imaginent qu'ils sont tous interchangeables. À l'heure de la mondialisation, on s'imagine qu'un Chinois peut être échangé contre un Kazakh, contre un... On est tous le fruit d'une histoire, d'une géographie, d'une langue, et pour beaucoup, et même pour 99% de l'humanité, une religion. Je mets l'athéisme comme une religion, parce que de toute façon, ça vous façonne le cerveau dans un sens comme dans l'autre. Et donc, si vous voulez faire fi de toutes ces données, vous êtes sûr d'aller à la catastrophe.
Votre émission, je dois le dire, Pierre Chevalet, sera la bienvenue. Vous n'êtes pas sans savoir
que... Merci, j'espère qu'on est bienvenue, sinon...
Vous n'êtes pas sans savoir que sur FM+, 91 FM à Montpellier, l'Europe est depuis longtemps présente, avec l'émission de Gérard Rousset, qu'il a menée depuis quelques années sur l'Europe. Nous avons aussi accueilli cette année les jeunes Européens de Montpellier, qui eux aussi militent pour une meilleure connaissance de cet espace européen. Donc, alors, j'entends dans vos propos que ce serait une orientation plus historique, pas identitaire, mais voilà, pensons le pays tel qu'il a été construit.
Non, je pense que ce qu'on espère faire, nous, c'est construire une époque réelle. Il ne faut pas la rêver, l'Europe. Regardez, il y a 2 ans, si vous aviez le malheur de dire que les Anglais allaient quitter l'Union européenne, pratiquement, c'est comme vous disiez à Rome que Jésus-Christ n'a jamais existé. Bon, et 2 ans après, ils ont un pied dehors. Donc, il faut essayer. Et si vous connaissiez bien l'Angleterre, que j'ai la chance aussi de bien connaître, je savais que dans certains quartiers, dans certains milieux populaires, la volonté de quitter cette Europe-là, vous comprenez bien qu'un peuple qui était capable de vaincre Adolf Hitler, il ne va pas se laisser emmerder par Juncker. Quand il veut dire que. Non mais je suis un peu cru, mais c'est ça la réalité des choses.
Ouais,
et si vous ne tenez pas compte de ça, et c'est pour ça que je n'ai rien contre la construction européenne, mais je pense que telle qu'elle est construite actuellement, elle court à la catastrophe, et je pense qu'il vaut mieux des gens lucides qui disent « ne partez pas en haute montagne sans crampons » que des gens qui disent « vous pouvez aller en haute montagne avec les baskets » et tout le monde revient dans des civières.
Ah, il y a quelques instants, vous avez lancé un message, un appel auprès des auditeurs, auditrices. Quelle est exactement votre demande? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Comment est-ce qu'ils pourraient participer
Que tous les gens qui sont sensibilisés à ce que je viens de dire essaient de prendre contact à travers vous ou directement nous. Je pense
donc
que
association-icoico.fr.
Oui.
Ces informations seront évidemment sur le site internet d'fmplus.org. Et peut-être là, on pourra identifier, détailler ce que vous attendez.
Oui, alors surtout, notre plus grand espoir, ça serait qu'un certain nombre de jeunes qui ont la volonté de s'ouvrir à la culture des autres, essaient de, et qui sont prêts à s'investir, parce que la coopération internationale, c'est d'abord et surtout une relation des autres. Hein. Les programmes de coopération administrative qui passent par le Quai d'Orsay et qui redescendent de l'autre côté, ça n'a jamais marché. Ça permet simplement à un certain nombre de gens de faire du voyage, du tourisme, mais ça, c'est la rencontre de deux personnalités qui ont envie, c'est comme un mariage, c'est-à-dire qu'ils ont envie de vivre ensemble et qu'ils ont envie que ça dure le plus longtemps possible. Si vous n'avez pas envie que ça dure, si c'est l'histoire d'une nuit, la coopération ne durera pas longtemps et n'aura pas de fruits.
Merci Pierre Chevalet pour cette première émission sur l'Europe orientale à travers l'ICEO et votre expérience. Donc à très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.